Alors, on a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir. Dany, votre opinion là, sur un possible prolongement du couvre-feu au-delà du 8 février?
Oui, ben moi, je suis pour ça encore, qu'il prolonge encore d'un mois. Parce que s'il faudrait que j'aie le choix entre choisir quelqu'un qui a la COVID parce qu'il n'a pas fait attention ou quelqu'un qui a besoin de soins, qui a payé des taxes toute sa vie, ça serait dur de prendre le choix de quelle personne que je prends. Quelqu'un qui s'en va en vacances, il choisit de prendre le risque d'être malade, mais qu'il revienne. Mais il faudrait qu'il assume aussi, parce que l'autre, il a besoin de soins. C'est ça qui est dur. Le choix est dur à faire. Moi, je travaille ces services essentiels, je suis en plomberie d'urgence. J'envoie du monde. Puis il faut qu'on se protège, puis il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça. On est rendu à Rivière. C'est le temps d'attendre pour être capable de la traverser, mais que le niveau de l'eau soit le plus bas possible.
Merci.
Pourquoi mettre la charrue avant les bœufs?
Donc,
je comprends pas.
Ouais. On maintient ça. Donc, vous iriez jusqu'au quoi, 21-22 février?
Ah, moi, je le ferais le mois de février au complet. Okay. Ça serait comme le mois de l'alcool, sans abstinence pour l'alcool.
Oui, mais c'est ça. Ça va être difficile si on n'a pas le droit de boire en plus en mois de février.
Il faut prendre nos précautions d'avance.
Oui, c'est ça. Ouais, merci. Merci beaucoup, Dany. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec Dany. C'est-à-dire, quand on parle des choix douloureux à faire, il y a beaucoup d'auditeurs là, qui m'écrivent aussi. Vous pouvez le faire à isabelle@985fm.ca. Les gens me disent je suis prêt à continuer le couvre-feu. Ça, c'est Monique qui m'écrit ça. Elle dit effectivement, moi, ça me touche pas beaucoup parce que sur le côté de sortir après 8 heures, de toute façon, mon mari et moi, on sortait pas tant que ça. Là où ça nous touche, c'est qu'elle travaille dans le domaine de la restauration. Là, avec toutes les mesures, moi, je suis prête, là, puis je veux pouvoir travailler. Ça va faire bientôt 4 mois, dit Monique, que je ne travaille pas. J'ai été presque 4 mois au printemps à ne pas travailler non plus. Donc là, ça fait 6 mois à pas avoir de salaire, là. C'est long, longtemps. Beaucoup de gens disent, rouvrons les commerces, puis avec des mesures, là. Les gens comprennent. Je pense que il y a beaucoup de gens responsables. Je pense qu'il faut le dire aussi. Vous êtes pas fous, là, le monde là, qui écoutait et qui regardait ça tous les jours. On se voit bien là, que si on n'est pas sorti du bois. On le sait qu'on a encore du chemin à faire. Mais il faut être capable de convaincre encore les gens de maintenir cet effort-là. Convaincre les pas convaincus, là, ceux qui pensent qu'il y a un grand reset. Là. Aïe, aïe, aïe. Et dire, OK, ben là, le choix, c'est quoi? Est-ce qu'on... Le couvre-feu, est-ce que ça peut être 10 heures du soir au lieu de 8 heures? Ou on le maintient à 8 heures? Ou est-ce qu'on le met à 6 heures, mais les magasins sont rouverts un peu? Il y a tout ça qui doit être discuté. Marc, comment vous voyez ça, vous?
Oui, je verrais le couvre-feu continuer encore 3 semaines, peut-être un mois là, de plus. Là.
OK. Donc, vous êtes d'accord avec Dany, tout le mois de février, par exemple?
Oui. Puis là, ouvrir un peu plus les commerces, là, plus de choses qu'ils peuvent acheter.
Ouvrir les commerces pour permettre aux gens là, de pouvoir gagner leur vie, d'avoir un certain retour à la normalité tout en faisant attention tout de même. Donner de l'air un peu. Hein?
Je garderai la même heure du couvre-feu. Là, moi,
toujours 8 heures, ça vous va. OK, parfait. Merci Marc, merci bien. On va aller voir ce qu'en pense le médecin épidémiologiste à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec. Il est aussi prof en épidémiologie à l'Université Laval. C'est le Dr Gaston Desserre. Bonjour Dr Desserre.
Bonjour.
Alors vous avez entendu Dany, Marc, les auditeurs avant, la Dr Renaud qui dit effectivement... Il ne faut pas partir en peur. Là. Il y a encore des choses qui doivent être maintenues. François Legault l'a dit hier, le couvre-feu, ça se peut qu'il soit prolongé après le 8 février. Ça serait la décision que vous prendriez à sa place?
Bien, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'il faut voir là-dedans. Le couvre-feu, il s'est rajouté, ça fait pas tellement longtemps. Et déjà, au moment où le couvre-feu a été mis en place, on voyait commencer là, la descente du nombre de cas. Donc ça, je pense que actuellement l'impact du couvre-feu, là, on va commencer à le voir à partir d'à peu près maintenant. Là. Donc, il faut voir que chaque fois qu'on fait quelque chose pour essayer de réduire la transmission, avant que ça se transforme dans les données qu'on peut voir au jour le jour là, du nombre de cas, il y a un délai d'à peu près 2 semaines. Donc, je pense qu'à cet égard-là, actuellement, on est quand même sur, je dirais, là, une bonne amélioration par rapport à ce qu'on était la dernière semaine de décembre, là, où on était là à 2800, même 3000 cas là, dans une journée, d'avoir rabaissé ce nombre-là à peu près 1600, vu là, évidemment, ça varie d'une journée à l'autre. Il y a déjà une bonne amélioration. Mais, le couvre-feu, je pense que ce qui est important, là, c'est que ça, c'était une mesure additionnelle pour essayer vraiment de deux choses, d'envoyer un message là, que la situation était extrêmement tendue là, au moment où le couvre-feu a été mis en place et elle s'est améliorée, mais très peu là, au niveau des hospitalisations. Donc ça, je pense qu'actuellement, il y a encore là une situation où on ne peut pas se réjouir, même si le nombre de cas qu'on voit actuellement est beaucoup mieux que ce que c'était il y a deux semaines. Le nombre d'hospitalisations, il commence à peine à se mettre à baisser. Fait que, donc, il y a un aspect de dire, là, il faut vraiment pas dépasser la capacité du système. Puis l'autre chose, c'est de dire, écoutez, c'est sérieux, on est dans une situation très difficile, il faut qu'on fasse des efforts, et non seulement pendant la période de couvre-feu, mais que ce message-là soit assez clair, que les gens, durant la journée, appliquent un peu plus strictement les mesures de précaution. Mmh. Est-ce que ça a eu un effet sur la partie journée? Ça, évidemment, on ne le sait pas, mais on peut espérer que le message soit bien entendu. Mais
nous ici, à Cogeco, grâce au sondeur Somme, on a posé la question aux gens. On leur a demandé, est-ce que l'entrée en vigueur du couvre-feu généralisé a modifié vos habitudes de vie entre 20h du soir et 5h du matin? C'est la plage horaire où on ne peut pas sortir. Mm-hmm. Et c'est fascinant de voir que finalement, docteur Dessert, selon ce sondage en tout cas, il y a 1276 personnes qui ont répondu. 82% d'entre elles ont dit, ben finalement, ça n'a pas vraiment modifié mes habitudes de vie. Il y a seulement 18% des gens qui ont dit, oui, ça a assez modifié ou beaucoup modifié mes habitudes. Mais sinon, pour la majorité du monde, là, le couvre-feu, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur les habitudes. Fait que c'est ça qui est... Bon, c'est un sondage, j'allais me dire, puis c'est juste 1200 personnes, mais quand même, c'est un sondage qui en vaut d'autres. Et ça veut dire que finalement, est-ce que le couvre-feu a tant d'impact que ça?
Bien, je pense que quand on regarde ce qui se passe dans l'ensemble de la population, depuis le tout début de la pandémie, il y a une grande proportion de la population qui respecte vraiment là, de façon assez rigoureuse les recommandations qui sont faites. Mmh. La question, est-ce que si tu mets un couvre-feu à 20 heures, ça change l'habitude de tout le monde? Ben non, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup de monde qui, même en période où il n'y a pas de couvre-feu, à partir de 20 heures, elles sont essentiellement chez elles. Mmh. Donc, que ça ait eu un impact particulièrement pour à peu près là, 15 ou 20% des gens, ce n'est pas surprenant. Maintenant, est-ce que c'est
15-20%
là... Mais
si les gens n'ont pas changé leurs habitudes, on peut dire, bon, il y a eu peut-être un impact, mais pas tant. Peut-être juste sur 18% des Québécois, il y a eu un impact. C'est pas négligeable, mais est-ce que c'est pas plutôt le fait qu'on peut pas aller nulle part, on peut pas se trimballer dans les magasins, on n'est pas supposé se promener non plus, même au Québec? Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement? Puis là, ce que je comprends, c'est que les gens, la preuve, c'est que les gens sont tous d'accord pour maintenir le couvre-feu. Je comprends, ça dérange pas notre vie. Fait qu'on le maintient, mais les gens veulent qu'on rouvre les magasins. Est-ce que c'est pour se magasiner du trouble, justement, que de rouvrir les magasins?
Mais bon, je reviendrai juste sur le point que vous dites. Quand tout à l'heure, je disais, la majorité des gens semblent respecter bien les recommandations. Il y en a un petit pourcentage qui, par contre, contournent les recommandations, puis font peut-être toutes sortes de rencontres qui sont propices à la transmission. Est-ce que d'avoir un impact par le couvre-feu qui touche 15%, ça finit par être un 15% qui est ce pourcentage-là où on voit plus de transmission? C'est possible. Évidemment, on n'est pas capable de le quantifier. Maintenant, le deuxième point que vous dites, est-ce que les gens ils ont hâte que les magasins ouvrent et tout ça? On peut comprendre. Encore une fois, quand on voit la baisse actuelle, elle est vraisemblablement liée à toutes ces autres mesures-là qui, elles, sont en place depuis Noël. Donc, d'avoir diminué, d'avoir interdit les visites dans les maisons, d'avoir fermé un paquet de magasins, tout ça. Maintenant, contribution chacun des morceaux a à la diminution, ça, c'est presque impossible à déterminer. Là.
Ouais. J'aurais aimé vous entendre sur les hospitalisations encore à la hausse. Avez-vous encore un petit peu de temps? On revient vite.
Oui, ça va, il n'y a pas de problème.
On revient tout de suite. Docteur Dessert, deux questions dans une, parce qu'il nous reste peu de temps. Je voulais vous parler des hospitalisations toujours trop élevées au goût du gouvernement, puis je pense qu'ils ont raison. Il y a ça comme considération. Puis il y a la question, les gens me le disent, Isabelle écrit, ça serait triste de lever le couvre-feu avant la relâche scolaire, ça serait jouer avec le feu. C'est un très bon point, je trouve.
Ben, je pense que, bon, on va parler des hospitalisations. C'est peut-être que la bonne nouvelle des quelques derniers jours, c'est que il semble avoir la montée qui était là, incessante là, depuis, je dirais, le mois de novembre, elle semble s'être arrêtée. Maintenant, la descente, elle n'est pas encore fortement amorcée. Alors, je pense que là, un petit peu comme on le dit plusieurs fois là, depuis le début de la pandémie, il y a toujours un décalage entre l'application d'une mesure, le changement sur les cas, puis le changement sur les hospitalisations, il arrive plus tard, puis le changement sur les décès, il arrive encore plus tard. Donc, le fait qu'on soit actuellement en train de voir les cas descendre, ça nous donne, je dirais, là, beaucoup l'espoir que assez bientôt, on va voir justement commencer la descente au niveau des hospitalisations. Et ça, évidemment, c'était l'objectif premier poursuivi par les mesures qui sont en place actuellement.
Mais est-ce que ça serait pas logique, justement, pour en prévision de la relâche, là, qui est fin février, début mars, qu'on maintienne un couvre-feu jusque-là? Ça vous paraît logique?
Bien, je vais vous dire, c'est actuellement là, la question que vous posiez tout à l'heure aussi, c'est bon, est-ce que c'est le couvre-feu? Est-ce que c'est, les magasins? Est-ce que c'est ça, évidemment, j'allais dire, c'est toutes des mesures qui, je dirais, s'additionnent. À partir de quel moment enlever le couvre-feu va changer quelque chose au niveau de la transmission des cas? Ben évidemment, je pense qu'actuellement là, il y a des débats à ce niveau-là. C'est encore une fois, je pense que plus la situation s'améliore, plus le gouvernement va être porté à dire bon ok, on peut se permettre de relâcher les choses. Et puis encore une fois, il y avait deux priorités en dehors du système de santé qui étaient l'éducation, la possibilité d'aller au travail. Puis on parlait, j'entendais la dame qui disait qu'elle travaillait pas là, depuis des mois parce qu'elle
était...
Ben, ça aussi, ça fait partie des choses qui doivent être mises dans la balance, puis avec lesquelles le gouvernement est en train de se casser la tête là, pour voir qu'est-ce que c'est qu'ils peuvent faire pour aider aussi ce secteur-là. Alors, moi, je peux pas dire qu'il y a une réponse claire de dire c'est sûr qu'il faut continuer le couvre-feu parce que c'est la méthode par excellence, mais c'est certainement un des outils.
Bon, ben merci beaucoup, Dr. Dessert. On aura l'occasion de s'en reparler, c'est sûr. Dr. Gaston Dessert, épidémiologiste. Lucie, rapidement, votre opinion là-dessus?
Moi, bonjour Isabelle, je suis complètement contre le couvre-feu. Je suis contente d'entendre ça parce que je trouve que c'est une fausse impression de réussite. La plupart des gens que je connais ne sortent pas après 8 heures l'hiver. Tout le monde se retrouve en même temps à l'épicerie. Puis on se compare à la France alors qu'on est beaucoup moins populeux que la France avec des grands espaces, tout ça. Ça pénalise vraiment les marcheurs, les joggeurs. Je suis vraiment complètement contre tout ça. Puis je trouve qu'on met contre les magasins avec le couvre-feu. Pourquoi encore polariser la discussion? Alors, si le gouvernement ouvre quelque chose, qu'il ouvre un peu le couvre-feu, qu'il ouvre un peu les magasins, mais qu'il fasse une égalité où les gens vont se sentir plus compris.
Bon, ben merci beaucoup, Lucie. Yves, vous avez 30 secondes pour m'expliquer votre affaire. Bonjour. Vous êtes paramédic en plus, c'est intéressant.
Oui, regardez, moi, le couvre-feu, j'ai rien contre ça. Quoique, je pense que pour l'instant, ça change pas grand-chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à peu près à tous les appels que je fais, il faut que je fasse de l'éducation aux gens. Ils comprennent pas la dangerosité puis comment le virus se transmet. À titre d'exemple, je fais une petite grand-maman qui a des problèmes respiratoires, donc qui peut être liée au COVID. Puis ce que je m'aperçois, c'est que sa fille est là avec son mari. Puis, à jaser avec, le garçon du couple, il vient là régulièrement, même s'il va à l'école, et ainsi de suite. Mais c'est pas grave, c'est grand-maman. Puis, je vous jure qu'à peu près tous les appels, il faut faire de l'éducation. On prend des gens, je me souviens d'une autre dame qui nous dit non, je sors pas, il n'y a aucun danger. Puis, elle discutait avec durant le transport. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'elle va dans un centre urbain à tous les semaines pour un petit peu de physiothérapie. Mais... tant qu'elle est là, on va aller faire un petit tour au centre d'achat. Ah, ouais.
Ben là, il est fermé. Alors, restez à l'écoute, Yves. On va prendre vos coordonnées. C'est le fun d'avoir un paramédic comme ça qui peut nous tenir au courant de la situation. On s'arrête ici. Les nouvelles, on va parler du rapport accablant vers Julie Payette qui a été accusée d'avoir été une gouverneure générale toxique. Je vais vous demander si vous subissez ça, la toxicité au travail, tout de suite après les nouvelles. Restez là, tout le monde.